bien l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge avec vous dans les studios de la Voix de l'Amérique à Washington pour explorer aujourd'hui la gestion des décharges publiques suite au drame qui s'est produit en Ouganda où le bilan de l'effondrement d'une décharge à Kampala le 10 août est monté à 34 morts au moins, dont des enfants et des dizaines de disparus. La décharge de Kitezi s'est effondrée à la suite de fortes pluies. Des habitants, animaux et habitations ont été ensevelis sous les déchets. En 2022, des parlementaires avaient dénoncé la dangerosité de ce site d'enfouissement surexploité qui reçoit les ordures de Kampala depuis 28 ans. Alors comment gérer les sites d'enfouissement d'ordures pour éviter de tels drames? Que faire pour établir des installations adaptées à l'environnement qui ne menacent pas la santé et la sécurité des populations? Les méthodes de recyclage sont-elles utilisées de manière optimale? Ce sont les questions que nous nous poserons donc ce soir avec vous et nos invités. Nous avons en ligne Maître Mathie Yave, qui est experte et consultante en droit international de l'environnement à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Maître, bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Nous avons également en ligne le professeur Céline Sikoulissimoua de la faculté des sciences et technologies de Kinshasa. Elle est chercheuse experte en environnement, qualité et gestion de l'eau. Elle travaille sur la chimie de l'eau, autrement dit l'hydrochimie. Elle est docteure en sciences de l'Université de Liège en Belgique également. Professeur, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous.
Bonsoir Nathalie, bonsoir Maître Mathie.
Voilà. Alors donc c'est vraiment un plaisir de vous avoir toutes les deux hein, en tant qu'experte. Bon, la première question, je vais la poser à Maître Matillave. Au niveau international, bon, on imagine, on sait qu'on n'a pas de loi particulière, en tout cas de restrictions particulières. Donc qu'est-il fait exactement, par exemple au niveau national, sinon au niveau international, pour protéger un minimum l'environnement en ce qui concerne en particulier la gestion des déchets, donc ces décharges à l'air libre?
Ça a été mentionné tout à l'heure, vous l'avez mentionné tout à l'heure, il n'y a pas officiellement, il n'y a pas encore de traités internationaux pour gérer effectivement les déchets, parce que ça reste quand même des questions de souveraineté au niveau des municipalités, au niveau des États. Mais aujourd'hui, compte tenu de la pandémie, on va l'appeler comme ça, que représente le plastique, la pollution plastique, il y a un traité qui est en train d'être négocié par rapport à ça. Au niveau local, c'est normalement les municipalités qui s'organisent généralement, souvent avec des PPP, des partenariats publics-privés, pour arriver à mieux gérer les déchets qui sont produits par les citoyens, la population, les communautés.
Mmh. Alors, professeur Céline Sikoulissimoua, vous êtes donc professeur de chimie de l'eau. On sait que les déchets doivent être transportés vers des conteneurs appropriés ou vers une station d'épuration. En ce qui concerne, pourriez-vous nous expliquer dans un premier temps, finalement, quelle incidence ont les déchets sur la qualité de l'eau? Parce qu'on parle de déchets solides ou autres, hein, qu'on enfouit dans le sol. Est-ce que cela a une incidence particulière, notamment sur notre eau, sur les nappes phréatiques et les cours d'eau?
Oh, bien sûr, Nathalie. Mm-hmm. Les déchets ont une incidence lorsqu'ils ne sont pas gérés convenablement, lorsqu'il n'y a pas de structures pour pouvoir les recevoir, les traiter ou les éliminer. Ces déchets, effectivement, peuvent poser énormément de problèmes sur la qualité de l'eau. Mais ce n'est pas que l'eau, c'est aussi le sol, mais l'air également. Pourquoi? Parce que ces déchets produisent ou diffusent dans la nature, dans l'eau, dans le sol, des polluants. On peut donner quelques exemples, hein, des polluants qui peuvent venir à la santé humaine. On peut trouver des pesticides, par exemple, qui peuvent provenir de déchets agricoles si c'est pas bien, si c'est, ils sont pas bien gérés. Nous avons également d'autres types de déchets, par exemple les matières fécales. Lorsque ces matières ne sont pas bien gérées, les déchets d'origine domestique, par exemple, qui proviennent de fosses septiques, eh bien, ça peut contaminer le sol et évidemment joindre les nappes à travers les infiltrations. Bien entendu, ça dépend aussi du type de sol que l'on rencontre. Donc, ces déchets, en tout cas, ont un impact, lorsqu'ils ne sont pas gérés, ont un impact considérable sur la qualité du sol et peuvent contaminer pas que les nappes, contaminer aussi les eaux de surface qui alimentent, qui sont finalement les sources d'eau brute pour ceux qui pompent pour traiter et pour potabiliser pour la consommation humaine. Donc, en un mot, je peux dire que il y a des incidences considérables, non négligeables en tout cas, qu'il faut considérer.
Restez avec nous, mesdames, on va écouter quelques commentaires. On va commencer par écouter le docteur Rebecca Yambo, elle est donc médecin à Kinshasa, et ensuite on écoutera Alpha Wambuyu, qui est également en RDC. D'abord le docteur Rebecca Yambo.
À cause de la croissance démographique, de l'urbanisation, du développement économique, nous assistons de plus en plus à l'augmentation du volume des déchets. Les centres d'enfouissement, nous ne savons que ce sont des endroits très dangereux et nuisibles pour la santé de l'homme du fait de la dégradation de certains déchets et qui entraîne la libération de certains gaz qui sont toxiques pour l'homme et toxiques pour l'environnement et qui sont des fois responsables du réchauffement climatique. D'où il est très impératif d'abord d'apprendre à la population la gestion des déchets dans les ménages et puis ensuite faire des centres d'enfouissement qui répondent aux normes et protègent la santé de la population. Car certains dégâts qui surviennent sont généralement du fait que les déchets ne sont pas triés dans les domiciles et les tris se font maintenant dans le centre d'enfouissement. Certaines personnes font du centre d'enfouissement un lieu où ils peuvent venir faire leur recyclage, leur tri, et cela est très dangereux pour eux et très dangereux aussi pour la population.
Personnellement, je condamne d'abord l'attitude de l'État qui est de faire semblant quand on est face à un danger. Normalement, ces sites devraient se retrouver à une distance un peu significative par rapport à un milieu public. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a certaines décharges d'ordures qui sont vraiment disséminées par-ci, par-là, et certaines aussi en plein centre-ville. Alors, si l'on veut gérer ce genre de choses, je pense que l'État doit d'abord se prendre en charge et comprendre les rôles qu'il doit jouer face à la population. Et cela n'est pas seulement dans l'objectif d'éviter les drames, mais aussi de ne pas exposer la population à différentes maladies. Alors, les méthodes de recyclage ne sont pas utilisées comme telles, parce que à chaque fois qu'on est en train d'évacuer ces ordures, on récupère ça dans des véhicules, dans des gros camions, et bon, parfois ils partent jeter ça, on ne sait pas, à des endroits qu'eux-mêmes jugent ne pas être fréquentés par la population. Mais malheureusement, on ne tient pas compte aussi de certains paramètres, voilà.
Vous avez entendu hein, sur la question donc, notamment voilà, du ramassage des ordures. Alors on a la réflexion de Alouseni Sakine sur Facebook qui a dit, je le cite, il faut des centres de tri et de recyclage des déchets à travers une bonne politique d'urbanisation des services concernés. Et Jonas Tchipadi, qui est également en République démocratique du Congo, il dit à Kinshasa, là où je vis, les méthodes de recyclage ne sont pas utilisées de manière optimale, les autorités n'ont pas pris les choses au sérieux, les gens tombent malades à cause de sites d'enfouissement d'ordures qui sont mal gérées et les installations non adaptées à l'environnement. Maître Matiyav, je reviens vers vous. Vous avez entendu au niveau des déchets. Alors Kinshasa, est-ce que les déchets sont bien gérés? Combien a-t-on de décharges à Kinshasa? Y a-t-il des décharges sauvages et quelles sont les priorités là-bas?
Alors, est-ce que les déchets sont bien gérés? Je pense que non. On a un gros problème d'insalubrité à travers la ville. Il y a il n'y a pas beaucoup de décharges et de plus en plus de décharges sauvages parce que la population ou les sociétés, les personnes qui font les collectes de déchets ne savent pas vers où se diriger pour finalement jeter ces déchets. Le centre d'enfouissement que nous avions, je pense qu'il est arrivé à full capacity, donc on devrait normalement voir comment étendre, mais entre-temps, la plupart des industries et des foyers domestiques, ben ils rejettent leurs déchets dans la nature avec tous les risques de contamination pour l'eau et pour les sols que ça représente. Par contre, avec le nouveau gouverneur, on a l'impression, parce qu'il y a certaines mesures qui ont été prises déjà par les gouvernements municipaux précédents, mais qui n'ont pas vraiment eu d'impact sur la gestion des déchets dans la ville de Kinshasa. Le gouverneur actuel semble avoir mis un gros accent sur la question de salubrité, d'assainissement et d'embellissement de la ville de Kinshasa. Donc nous attendons encore de voir si dans un futur très proche, on aura Kinshasa qui va devenir un peu plus propre. Ce qui est important de noter, c'est que c'est des questions qui demandent des gros financements et que, vu la grandeur de la ville de Kinshasa et la nécessité d'envoyer, de localiser les décharges et les sites d'enfouissement dans des zones qui sont peu ou pas habitées, il y aura forcément un problème de distance, un problème de carburant. Je me souviens que pour un projet auquel j'avais été associée il y a à peu près 5 ans, le plus gros coût à côté des investissements en termes d'équipement, c'était le carburant par jour. Donc, il faudrait trouver des moyens de financement innovants pour permettre à ce que la ville de Kinshasa soit plus propre.
Voilà. Alors, professeur Céline Sikoulissimoua, vous êtes initiatrice du monitoring des rivières à Kinshasa et du projet SOS Rivières. Pourriez-vous nous en parler brièvement?
Merci beaucoup Nathalie. Effectivement, je suis initiatrice de ce projet qui malheureusement n'est pas appuyé au niveau local. Il s'agit en fait de lancer un SOS, comme savait le SOS veut dire, ça s'éva au sol, les rivières qui crient au secours, les rivières qui se meurent. Il n'y a plus de rivières à Kinshasa, hein, si faut le dire, surtout dans la partie urbaine, les rivières urbaines c'est tout simplement des décharges à ciel ouvert, de déchets de tout genre qui proviennent de partout et qui finalement rendent un très mauvais service à l'équilibre de ces écosystèmes qui en son temps abritaient différents types d'espèces aquatiques. Les poissons, par exemple, qui n'existent plus. Nous avons lancé ce projet SOS Rivières dans l'espoir de pouvoir sauver tant soit peu ce qu'il y a, parce que sur une bonne partie de la capitale, quand vous passez par là, c'est désolant comme spectacle avec tout ce qu'on a comme déchets. On voit plus les plastiques, mais on ne voit pas tous les déchets qui sont dissous à l'intérieur de ces cours d'eau. On peut encore les appeler comme ça. On voit beaucoup plus de déchets plastiques parce que ça flotte. Et tout ce qui va dans le fond, personne ne s'en occupe. Notamment les métaux lourds qui proviennent de différents types de déchets électroniques, électriques, électroménagers et puis informatiques. Tout ce qu'on a comme reste, des téléphones portables, des ordinateurs. En fait, tout ce qu'il y a va dans les rivières. Parce que, comme a dit Maître Yav, il n'y a pas de gestion des déchets efficace. Il y a, c'est vrai, un seul centre d'enfouissement technique qui se trouve en Passa, mais qui malheureusement aussi pose problème. Parce que je me souviens, en 2013, je suis passée par là pour l'analyse de la qualité de l'ictivia, qui est une sorte de liquide qui provient de cette décharge. Et puis, ça s'enfouissait carrément à travers le sol parce que les espaces qui étaient créés pour recevoir ce liquide-là, c'est un liquide qui se traite. Normalement, avant d'être renvoyé dans la nature, on le décharge de ses polluants pour purifier le liquide. Et malheureusement, c'est pas le cas. En termes de décharge, ça c'est la décharge officielle connue, mais en termes de décharge sauvage, comme je peux les appeler, il y a à des milliers à Kinshasa. C'est difficile de les comptabiliser, mais je sais que dernièrement, il y a eu une thèse de doctorat qui a été défendue et qui a prôné ou qui met en place pratiquement un système électronique pour l'identification des décharges. C'était déjà une bonne initiative présentée par le docteur Mavatala, mais je pense que il y a beaucoup à faire. C'est ça qui nous avait poussé en fait à crier au secours pour sauver ces rivières et nous essayons dans la mesure du possible
merci
à
beaucoup.
Travers le monitoring que nous organisons depuis quelques années pour en fait voir quelle est la qualité, l'état de santé de toutes ces rivières de Kinshasa. Voilà un peu.
D'accord, merci professeur. Écoutons à présent Rabiatou Mbama, elle est ingénieure forestière et elle est au Cameroun.
Pour mieux gérer ces sites d'enfouissement, il faut qu'ils soient d'abord bien à l'écart des habitations et que de véritables études d'impact environnemental et social assorties d'un plan de gestion soient menées. L'idéal serait que les déchets soient triés à la base et que ceux qui peuvent être recyclés ou qui présentent une grave toxicité pour les sols comme les déchets électroniques ne soient pas déversés dans ces sites directement, mais conduit vers des sites de recyclage. Certaines entreprises et organisations de la société civile se battent d'ailleurs pour recycler quelques déchets, notamment le plastique en bouteille particulièrement pour ce qui est de la zone du Cameroun. Mais ils sont battus par la vitesse de production de ces déchets. Les quantités produites par jour des déchets de plastique sont énormes et ceci est lié au mode de vie actuel des Africains. On a les jus en plastique, les gamelles emportées en plastique, les sachets en plastique saturés. Vraiment, ce sont des situations que nous pouvons éviter si nous avons conscience, si nous prenons en main notre responsabilité en ce qui concerne la réduction de nos déchets.
Voilà, c'était Rabiatou Mbama. On va l'écouter encore à présent parce que là, elle nous parle justement d'un projet en particulier.
L'année passée, on avait fait un petit court-métrage avec des enfants de 8 minutes sur la gestion des déchets plastiques. On avait fait en plein marché. Lors du tournage, beaucoup de personnes avaient déjà été sensibilisées parce que c'est un problème aussi dans les écoles avec lesquelles on travaille la gestion des déchets. Les écoles ont mis en place des mécanismes de tri et de gestion des ordures, mais les communes et tout ne suivent pas. Parce que finalement, à quoi ça sert? Vous êtes dans une école, vous triez, vous montrez aux enfants comment mettre biodégradable à part, le non biodégradable de l'autre côté et tout. Mais lorsque le service de la commune arrive pour collecter, tout est versé dans le même camion et acheminé. Puis les enfants sont étonnés, ils disent mais comment? Pourquoi ça sert finalement? Donc il y a des mécanismes comme ça, on espère vraiment qu'avec ce projet-là, on ira avec des plaidoyers pour que les communes s'investissent davantage et créent des facilités pour que ces mécanismes qui sont implémentés dans les écoles puissent avoir des prolongements dans la commune.
Voilà, c'était l'ingénieure forestière camerounaise Rabiatou Mbama. Maître Matillave, on a parlé de surproduction. La surproduction, c'est la question. Je ne sais pas si vous, dans vos initiatives, vous en tenez compte finalement, parce qu'on vit dans un monde de surproduction. On sait par exemple qu'aux États-Unis, on a 2 kilos par personne chaque jour de déchets. Et on sait qu'environ 27% de ces déchets sont recyclés, moins de 10% compostés, 12% brûlés et la moitié est déversée dans les sites d'enfouissement. C'est un petit peu partout pareil, on va dire, sauf peut-être avec quelques exceptions dans certains pays. Donc finalement, moi je poserai la question de la surproduction. Dans vos plaidoyers, dans vos initiatives, est-ce que vous mettez en question finalement la question de la surproduction, parce qu'elle est toujours délicate, parce que c'est une question économique. La production crée des emplois. Donc comment trouver le juste milieu par rapport à cela?
En ce qui me concerne, je pense que la situation de la RDC, je ne sais pas si c'est la même chose dans les autres pays en voie de développement, une grande partie des déchets émis, ça reste des déchets organiques. Donc, ça voudrait dire qu'il serait possible, si un tri sélectif approprié est fait à l'origine, c'est-à-dire dans les foyers, de pouvoir recycler ou transformer en compost une grande partie où on a certains déchets qui sont assez biodégradables. Mais de plus en plus, effectivement, avec cette surconsommation, ce consumérisme, il y a des déchets plastiques qui sont présents et la sensibilisation, effectivement, elle n'est pas encore assez forte pour pouvoir conscientiser la population pour que elle-même, les autorités, pardon, puissent prendre cette question à bras le corps. Ce qui se passe, c'est qu'on oublie que la première action pour recycler, ça part des principes de ce qu'on appelle les 5 R, c'est d'éviter de produire, de consommer le plastique, si on parle du plastique. Donc il faut revoir ses habitudes individuelles, familiales, sociales. Il faudrait pouvoir mettre sur pied des initiatives d'incitation fiscale pour ceux qui produisent moins, qui polluent moins, pour toutes les industries qui, justement, se investiraient dans une production verte, entre guillemets. Malheureusement, ces initiatives-là, elles ne sont pas uniquement à prendre par des individus, mais il faut que le secteur privé prenne ce genre de décision. Il faut que les pouvoirs publics aussi s'impliquent. Il faut que les législateurs travaillent dessus. Et on est en train de pousser justement pour cette prise de conscience, pour que toutes les forces vives de la nation puissent éviter de détruire. Parce que les questions, aujourd'hui, les grands défis environnementaux, à travers le monde, c'est la question du climat.
Absolument. Alors, je vais vous arrêter. Excusez-moi, je vais vous arrêter là parce que l'émission passe très très vite. Alors, professeur Céline Sikoulissimoua, vous avez dressé un plan assez sombre tout à l'heure sur l'environnement finalement, de tout ce qu'on peut retrouver dans la nature. Maître Matilla vient effectivement de parler de la question de la conscientisation. Vous-même, est-ce que vous avez des initiatives particulières justement? En tout cas des initiatives qui puissent s'adresser au public, en tout cas des suggestions pour que l'on prenne soin de son environnement, à commencer par l'eau.
Merci beaucoup. Nous avons effectivement commencé aussi ces différentes sensibilisations à travers les élèves. À ce moment-là, nous étions appuyés par l'UNESCO. Les élèves, les enseignants, vous savez, quand on enseigne quelque chose à un élève ou à un enfant qui se trouve à l'école primaire, il le retient toute sa vie, hein, ça, on doit le savoir. Nous avons également possédé par des conférences, des émissions télé diffusées. Nous avons même lancé à travers YouTube SOS Rivière, qui aussi un magazine pour pouvoir réveiller plus ou moins l'attention. Mais également, nous continuons à travers les sensibilisations dans les quartiers, hein, l'éducation environnementale. Nous avons écrit aussi un livre pour ceux qui peuvent lire, les décideurs, afin de trouver les solutions que nous avons proposées, notamment la prise en compte de l'éducation environnementale. Parce que même si aujourd'hui on veut créer des décharges, j'ai suivi dernièrement l'initiative de l'actuel gouverneur de la ville, je pense qu'il faut synchroniser les actions. Il faut également construire les structures de traitement des déchets, surtout solides. Mais actuellement, les déchets liquides sont plus ou moins dans les oubliettes parce qu'on ne les voit pas et c'est directement sur le sol ou alors ça passe via les fossés, ce qui pose un autre problème parce que vous savez que tout ce qui sort de ces déchets, des fosses septiques, les bouts des vidanges sont également déversés dans le fleuve, dans la rivière Funa en particulier. Nous avons également mené des études à ce niveau-là pour savoir quel était l'impact sur les écosystèmes. Nous sommes en train de travailler à la fois en tant que scientifiques, mais aussi proche de la population, parce que vous savez, l'ignorance, mais aussi la pauvreté fait que les gens ne se rendent pas compte de la gravité de la situation et nous ne nous arrêtons pas là. Nous continuons actuellement, nous venons de boucler une étude de 6 mois sur la qualité de l'air à travers la décharge sauvage au niveau de Delvaux. Vous savez bien que ces décharges, comme il n'y a pas de site de traitement, ces décharges qui servent pour les déchets servent à résoudre le problème des érosions, mais tout en créant d'autres, on incinère sauvagement, abusivement, on brûle les déchets à ciel ouvert et ça a encore d'autres incidents sur la qualité de l'air.
Absolument. Professeur, je suis également obligée de vous arrêter parce qu'il faut qu'on écoute à présent Maïmouna Traoré. Elle est reporter au Burkina Faso et elle a réalisé un reportage justement sur les sites d'enfouissement. Et tout de suite après, on écoutera Sarah Ntamboué qui est à Goma, donc en République démocratique du Congo. D'abord, Maïmouna Traoré.
La gestion des déchets constitue un enjeu environnemental et une grande préoccupation pour les municipalités parce qu'avec l'explosion démographique, la production des ordures ne fait que s'augmenter également. Si on prend le cas de la ville de Ouagadougou, on était à plus de 300 000 tonnes d'ordures ménagères produites par an en 2013. Des chiffres qui sont passés à plus de 600 000 tonnes par an en 2017 et aujourd'hui nous sommes à plus de 800 000 tonnes. Comprenez donc que pour les municipalités et les autorités, la gestion de ces ordures-là pose vraiment des problèmes. Donc, il y a des étapes de collecte. La pré-collecte qui est faite par les groupements d'intérêt économique, des PME, des associations, et même qu'il y a des particuliers qui se débrouillent avec des charrettes, des chariots, pour collecter les ordures et les amener dans les centres de transit. Et là-bas, les ordures sont gérées par les municipalités qui les convoient dans un centre d'enfouissement.
Cette thématique sur la décharge des immondices est vraiment une question qui est en train de prendre de l'ampleur, surtout à Kinshasa où nous avons certaines communes et quartiers inaccessibles parce que c'est voilà, les gens se choisissent d'un bon matin de rendre des quartiers d'immondices. Et moi, je ferai peut-être appel au gouverneur, au maire de ville, de vraiment trouver des mécanismes de transformation de ces immondices, parce qu'il y a des jeunes avec du potentiel qui nous ont prouvé maintes fois qu'on pouvait en faire de foyers améliorés, de pavés pour des constructions de routes, et que le gouvernement devait capitaliser sur ça pour que ces dangers qui courent avec tous ces immondices non gérés, qu'il n'y en ait plus, pour qu'on essaie vraiment de réduire tous ces morts causées par la non-gérance de ces immondices.
Maître Matillav, on arrive au terme de l'émission, donc on va être très très bref. En conclusion, qu'est-ce que vous suggérez pour une meilleure gestion des déchets très rapidement?
Je pense qu'il faudrait quand même que l'État prenne cette question au sérieux, qu'elle travaille à sensibiliser la population et qu'elle mette en place des structures qui permettent une traçabilité des déchets pour éviter que notre sol, notre eau soit contaminée et que la santé de mes concitoyens soit mise en péril.
Professeur Céline Sikoulissimoy, la même chose, très rapidement, 3 mots pour nous dire que faire, quelle est la priorité selon vous pour bien gérer les déchets.
Merci beaucoup, c'est la mise en application de loi, elle existe pour protéger les cours d'eau et de manière synchronisée pour pouvoir faire ce qu'on appelle une gestion durable des déchets, un assainissement durable. Voilà ce que je peux dire.
Grand merci professeur Céline Sikoulissimoy de la faculté des sciences et technologies de Kinshasa. Nous avions également maître Matillav qui est experte et consultante en droit international de l'environnement à Kinshasa, également en République démocratique du Congo, avec vous pour vous accompagnée, c'était Nathalie Barge. À la production, c'était Fatoumata Kalala. Restez avec nous pour la suite de nos programmes sur VOA Afrique. Bonne soirée, on reste en contact et à très bientôt.